L'écume des pages reçoit aujourd'hui Andrei Kourkov, écrivain ukrainien né en 1961, près de Leningrad. Andrei Kourkov est traduit dans le monde entier en 36 langues, et son dernier roman, Le concert posthume de Jimi Hendrix, vient de paraître en France aux éditions Liana Levy. À travers des histoires rocambolesques, qui sont un mélange étrange et tordant entre ordinaire et absurde, Andrei Kourkov dépeint l'Ukraine post-soviétique avec humour et tendresse. Assis à travers l'histoire du pingouin Misha, dépressif, recueilli par l'écrivain raté Victor après la faillite du zoo de Kiev, et à travers leur rencontre avec un panel de personnages tout aussi fantasques, dans son roman acclamé Le Pingouin. Humour toujours, mais avec un regard parfois acéré, et on se souviendra en particulier du Dernier Amour du Président paru en 2004, qui, à travers un président fictif de l'Ukraine en 2015, dresse un portrait au vitriol de Poutine et de sa politique envers l'Ukraine, tant et si bien que le président russe l'a fait interdire dans son pays. Dans son journal de Maïdan, paru au printemps dernier, livre élaboré à partir de passages de son journal intime, Andrei Kourkov prend pour la première fois position politiquement dans ses écrits, de façon explicite, livrant au jour le jour un récit, une explicitation vibrante des événements de l'Euromaïdan, mouvement politique et populaire débuté en novembre 2013 dans sa ville de Kiev, après l'annonce par le premier ministre ukrainien de l'abandon du rapprochement économique avec l'Europe, au profit de nouveaux accords avec la Russie. Aujourd'hui, Andrei Kourkov a accepté de revenir avec nous sur les différents thèmes qui alimentent son œuvre, de la culture ukrainienne au post-communisme, en passant par son éternel optimisme.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Alors j'aurais voulu revenir tout d'abord sur votre rapport aux langues étrangères, parce que donc, vous en connaissez une dizaine, c'est ça, et ça a été dans le cadre de vos études. Enfin, je sais que vous avez étudié à un institut des langues, mais est-ce que vous avez fait beaucoup de voyages? Est-ce que c'est quelque chose qui vous importe depuis longtemps?
Non, en fait, j'ai commencé à apprendre la langue étrangère comme enfant à cause de ma collection de cactus. Dans l'âge de 10 ans, j'avais 1500 sortes différentes de cactus et j'ai appris ces noms en latin. Après, j'ai appris polonais pour lire livres en polonais. C'était beaucoup plus tard, c'est dans l'adolescence, parce qu'il y avait des livres en Ukraine édité en Pologne mais traduit d'anglais, d'allemand, qui n'était pas traduit ni en russe ni en ukrainien. Dans le temps soviétique, c'était presque impossible de voyager à l'étranger, comme ça apprendre la langue étrangère, c'était un peu comme voyager dans l'imagination. Et je fais aussi des études dans l'école musicale à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 15. Et cette combination de musique et de latin botanique, je crois, m'aidait beaucoup d'apprendre les autres langues. Donc je parle aujourd'hui russe, ukrainien, polonais, français, anglais, allemand. Je comprends l'italien. Je peux dire encore quelque chose en japonais. Je fais des études dans l'école des traducteurs du japonais. Et j'ai oublié roumanien, géorgien, hollandais et danois. Ouais. Parce que je n'ai pas utilisé ces langues et comme ça, ils sont partis.
Du coup, qu'est-ce que ça a pu donner pour vous? Quelle ouverture à d'autres cultures ça a provoqué? Est-ce que ça vous a donné donc envie de voyager, puisque vous dites que vous ne pouviez pas voyager dans votre jeunesse ou difficilement? Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir de nouveaux pays?
En fait, j'ai appris les langues pour découvrir, parce que j'ai compris que je peux écouter le radio étrangère, par exemple. Et pour comprendre, il faut savoir la langue. Je pouvais lire des journaux parfois, ramener de Pologne, de France, tout ça. Et c'était comme un moyen de voyage sans voyager.
Maintenant, j'aimerais vous demander pourquoi exactement vous avez commencé à écrire. Donc, à l'époque, vous étiez gardien de prison dans le cadre de votre service militaire, si je ne me trompe pas. Et vous avez commencé à écrire des contes pour enfants. Donc, ça peut sembler peut-être un peu paradoxal d'écrire quelque chose de très, très différent. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture et à ce genre ?
J'ai commencé à écrire les poèmes quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Et après, peut-être sous l'influence de mon frère, qui était un dissident anti-soviétique, qui avait beaucoup d'amis, qui ramenait les livres interdits pour lire clandestins et échanger les blagues politiques, j'ai commencé à écrire les blagues, à inventer des choses humoristiques. Et j'ai lu les livres, beaucoup de ces livres, je ne comprenais pas, mais j'adorais la sensation qu'on lit les livres interdits. Ce n'était pas toujours les livres politiques, plutôt c'était aussi les livres philosophiques, les poèmes aussi, les livres sur psychoanalyse, choses comme ça. Et quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à écrire la prose, des récits. J'ai devais faire mon service militaire à l'âge de 24 ans. Là, j'ai commencé à écrire les contes pour les enfants, mais c'était très c'est très facile à expliquer parce que les gens qui sont fermés physiquement, parce que les soldats aussi étaient fermés, ils ne pouvaient pas sortir sans permission de la territoire de la prison, et ils cherchent la compensation psychologique pour se relaxer, pour se détacher de réalité. Et beaucoup de prisonniers, par exemple, aussi commencent à écrire les poèmes dans la prison. Et j'ai commencé à écrire les contes pour les enfants parce que c'était facile de plonger dans le passé, de penser d'enfance, des choses comme ça. Et si tu écris un conte pour les enfants, tu es complètement coupé de la réalité.
Revenir à vos romans, puisque c'est ce qu'on connaît le plus en France. Le journal de Maïdan vient d'être traduit, mais on n'a pas de traduction de vos contes. On a surtout vos romans. Et je voulais savoir, c'est des romans qui sont vraiment très ancrés dans le réel. Il y a un attachement à décrire les rues de Kiev, par exemple, et d'autres villes d'Ukraine. Il y a un attachement aux itinéraires aussi. Et je voulais savoir à quel point, jusqu'à quel point les vies qui sont décrites sont réalistes, sont représentatives de l'Ukraine et de ce que vous pouvez voir, vous, quand vous êtes à Kiev.
Non, c'est, en fait, tous mes romans décrivent les situations réelles, mais en fait déformées par mon imagination. Et toujours, les romans sont aussi les réaction sur les événements, sur les problèmes réels de Kiev, de la vie en Ukraine. J'écrivais beaucoup de romans sur Kiev. En fait, le dernier roman, c'est sur Lviv, sur une autre ville magnifique que j'aime beaucoup. Et maintenant, j'ai décidé de voyager plus dans mes romans, c'est-à-dire que le roman que j'ai arrêté avant le Maïdan, mais je vais finir peut-être cette année, c'est le roman sur Lituanie et l'Europe, où il y a beaucoup des événements qui passent aussi en France, à Paris, en Nord-Pas-de-Calais, en Angleterre, à Londres, Surrey, et Kent, tout ça. Mais c'est sur immigration, sur intégration d'une petite nation dans une communauté européenne mélangée, cosmopolite. Comme ça, c'est aussi c'est le roman actuel, sur les problèmes actuels.
Et du coup, quand vous parlez de rues, des itinéraires très précis, est-ce que justement ces rues existent à Kiev ?
Ah oui, non, j'utilise toujours la toponymie et géographie réelle. Les cafés réels, je me souviens quand il y a 10 ans, mon éditeur japonais m'a envoyé ma traductrice japonaise à Kiev pour que je montre tous les endroits qui sont présent dans le roman Le Dernier Amour du Président. Et c'était très intéressant pour la traductrice, mais pour moi aussi.
Pour revenir à la culture ukrainienne que vous décrivez beaucoup dans vos romans, et notamment c'était autour des boissons. Vos personnages boivent énormément du thé, du café, de l'alcool. Et donc, est-ce que c'est représentatif de la vie ukrainienne ? Est-ce que ce sont des marqueurs, des moments de sociabilité aussi importants ?
La culture de la rue en Ukraine est très proche à la culture méditerranée. Il y a toujours, pendant la saison chaude, ou en printemps, il y a toujours des centaines de gens sur les rues, dans les cafés, qui bavardent, qui simplement... ont les conversations, c'est normal, mais c'est la même chose qu'ici en France, oui. Du thé, du café, c'est aussi c'est la culture qui... le café est arrivé d'Autriche en Ukraine au 18e siècle et est resté là. Du thé aussi, l'alcool était toujours présent dans les pays slaves, plutôt en hiver. Pour se réchauffer, mais aussi pour réchauffer les conversations, les dialogues. Oui.
Il y avait aussi le thème de la nuit que j'aurais voulu aborder, parce que vous avez beaucoup de personnages, notamment dans le concert posthume de Jimi Hendrix qui vient de paraître, et aussi dans L'étier de nuit, qui se passe vraiment en grande partie pendant la nuit. Est-ce que c'est un thème qui vous fascine particulièrement ? Est-ce qu'il y a une grande vie nocturne en Ukraine ?
Non, la vie nocturne n'est pas très grande en Ukraine. À Kiev, peut-être, il y a des endroits, comme à Paris, avec des boîtes de nuit, tout ça. Mais pour moi, la nuit, c'est le temps un peu magique et mystique, parce que la majorité des gens dorment. Et c'est toujours c'est les personnages, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui sort dans la rue pour quelque chose, c'est déjà quelqu'un d'intéressant. Moi-même, j'aime balader à Kiev pendant la nuit et prendre les photos, faire les photos de Kiev nocturne à cause de ça. Mais c'est seulement, il y a deux romans avec beaucoup d'épisodes qui se passent pendant la nuit.
J'avais aussi une question sur les rapports humains. Vous, dans les petites nuits, par exemple, vous avez énormément de couples qui se croisent, qui se rencontrent, mais ces couples sont parfois soudés, parfois moins, mais on a l'impression qu'ils se taisent beaucoup, qu'ils parlent peu. Souvent, les grandes discussions, elles sont assez elliptiques. J'ai l'impression qu'il y a parfois peu de discussions, des choses qui passent dans le silence plus que dans les mots. Est-ce que c'est une simple impression liée au fait que parfois les situations se passent de nuit, justement, donc c'est toujours une impression un peu étrange.
C'est le roman sur, on peut dire, lutte contre la solitude, parce que la société peut survivre seulement s'il y a des couples, s'il y a d'amour, s'il y a des relations vraies, et il y a toujours des problèmes pour les gens de trouver une langue commune avec un avec autre. Et dans ce roman, c'est le roman un peu comme sociologique, parce que il y a des relations du niveau différent entre les personnages, mais si les personnages ne discutent pas beaucoup de choses, ça ne signifie pas qu'ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas prêts au moment pour parler, mais ils cherchent toujours le partenaire pour le dialogue pas nécessairement verbal, mais dialogue humain.
Et c'est vrai que j'aime beaucoup vos romans parce qu'ils sont très étranges, mais aussi très optimistes. En général, ils se finissent bien. Et effectivement, il y a des romans qui sont des romans de la solitude, mais à la fin, il y a énormément de liens qui se sont tissés, même des couples qui étaient déjà présents au début du roman, mais qui se sont rapprochés. Et est-ce que c'est à mettre en lien avec votre regard sur la vie, ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, du coup ?
Oui, j'étais toujours un optimiste. Enfin, dans les années beaucoup plus complexes, au début des années 90, c'était la situation très triste en Ukraine, et quelqu'un m'a demandé pourquoi je reste un optimiste? Est-ce que c'est déjà le temps pour devenir un pessimiste comme tous les autres? J'ai répondu que je suis devenu maintenant un optimiste noir, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait que tout va finir bien, mais il n'est pas sûr qu'il va survivre jusqu'à ce moment. Mais ici, dans les romans, la raison pour être optimiste est encore un peu différente, parce que chaque auteur, par le roman, passe un message au lecteur. C'est-à-dire que chaque roman a une énergie spirituelle et il y a des écrivains qui sont considérés les intellectuels qui essayent de passer l'énergie négative, c'est-à-dire que raconter une histoire sans happy end, c'est-à-dire que les écrivains partagent son pessimisme. Je partage mon optimisme par le moyen de happy end, et je suis sûr que chaque histoire doit avoir happy end. Si l'histoire n'a pas de happy end, c'est l'histoire pas finie, pas encore finie.
Mais d'ailleurs, en parlant d'histoire pas encore finie, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent c'est un happy end, on voit des gens qui sont heureux, mais finalement on a l'impression que l'histoire continue au-delà des pages, que c'est jamais vraiment fini, que c'est des livres très très vivants en fait, qui prennent une vie par eux-mêmes. Est-ce que vous le voulez comme ça? Est-ce que vous voulez que ça continue au-delà dans l'esprit de vos lecteurs?
Non, en fait, je crois moi-même que c'est impossible de finir une histoire, parce qu'il y a toujours des personnages qui vivent, qui ont l'avenir. Comme ça, on peut traiter chaque roman comme un roman arrêté, pas un roman fini.
Du coup, j'avais une autre question, je pense qu'on vous l'a déjà posé un certain nombre de fois, c'est par votre rapport aux animaux de compagnie. Ils sont assez présents dans vos romans, que ce soit le chat Mourik de L'été de nuit, le pingouin Micha, le caméléon du caméléon. Toujours des animaux un peu particuliers, parce que le chat Mourik est à moitié un super-héros, par exemple. Est-ce qu'ils vous permettent de faire passer des choses que vous n'arriveriez pas à faire passer avec juste des personnages humains?
Non, c'est beaucoup plus simple. J'aime les animaux, mais les animaux n'étaient jamais heureux chez moi quand j'étais un enfant. Ils étaient toujours morts, tragiquement, ou quelque chose passait aux animaux. Et je crois que c'est en fait les premiers animaux qui entraient mes romans, ils entraient les histoires sans moi les contrôler. C'est-à-dire que je crois qu'on a besoin des animaux dans les romans aussi, parce que les animaux toujours sont honnêtes, naturels, pas comme les gens. Et c'est beaucoup plus facile de juger les animaux, les accepter ou pas accepter, que les gens, parce que les gens peuvent dire des mensonges, jouer un rôle de quelqu'un d'autre.
Alors que oui, les animaux sont toujours fidèles à leur nature, finalement.
Oui.
Que parfois les animaux vous échappent un peu aussi, qu'ils arrivent sans que vous les contrôliez dans vos histoires. Est-ce que vous avez le sentiment parfois quand vous écrivez que vos histoires sortent de votre contrôle, qu'elles s'écrivent toutes seules, mais que l'inspiration est...
Non, c'est en fait l'auteur commence une histoire. Si l'histoire est vraie et vivante, l'histoire commence à aider l'auteur et de la créer. Et comme ça, oui, s'il y a des personnages qui sont forts, et ils montrent la direction du sujet, de l'histoire, c'est toujours comme ça. Parce que si c'est l'auteur qui écrit le roman lui-même jusqu'à la fin, sans prendre conseil des personnages, il manipule l'histoire, mais plus les personnages, ou les personnages sont trop faibles.
Elles prennent vie facilement, vos histoires, quand vous les commencez, ou c'est parfois un peu compliqué?
C'est toujours différent. Normalement, c'est plus difficile d'écrire les premières 70 pages, et après, ça roule sans problème. Parfois, il y a des arrêts, des problèmes... Mais chaque fois, c'est une histoire différente. Il n'y a pas de comment dit, du rythme typique pour l'écriture d'un roman pour moi.
Et est-ce que parfois vous trouvez ça difficile de s'arrêter dans un roman? Est-ce que vous avez du mal à quitter vos personnages, par exemple?
C'est normal parce que c'est toujours dommage de finir un roman. Et on continue. Comme avec le pingouin, je continue quelques pages en plus. Et j'ai réalisé après, j'ai compris après que j'ai déjà écrit le fin et je continue. Et j'ai coupé les dernières quelques pages dans le roman et comme ça, ça marchait bien.
Et du coup, est-ce que ce sont ces dernières quelques pages qui vous ont amené ensuite à le prolonger quelques années après?
Non, j'ai compris que je peux continuer cette histoire et je suis revenu, mais je suis revenu au pingouin Micha, parce que il y avait beaucoup de lecteurs plutôt en Allemagne, Suisse et Autriche qui m'ont demandé de savoir qu'est-ce qu'il passe après.
D'accord. Et donc vous êtes sensible au courrier de vos lecteurs, au retour que vous pouvez avoir?
Oui, mais maintenant, pendant les dernières années, il y a beaucoup de demandes que je fais encore un roman et j'ai dit non. Deux romans sur pingouin Micha, c'est suffit. Il y a un happy end pour le pingouin dans le deuxième roman, c'est tout, l'histoire est finie.
Quels sont vos rapports justement avec l'Ukraine soviétique, avec le monde de votre jeunesse qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui subsistent, ça a dû vous marquer énormément?
L'Ukraine soviétique, c'était l'Union soviétique, c'était pas vraiment l'Ukraine, parce que aussi la langue ukrainienne était très limité, c'est-à-dire que, à Kiev, dans la capitale, avec population de 4 millions, il y a toujours 80% des gens qui parlent russe. Mais l'ukrainien était comme dans un ghetto. Je travaillais dans la maison d'édition ukrainienne d'État Dnipro, et les livres étaient édités en ukrainien, mais les gens, en approchant le bureau, parler russe un avec l'autre, et après il entrait dans le bureau, dans le bâtiment, il changeait la langue. C'était comme un peu le jeu intellectuel. Toutes les autres choses, c'était soviétique, universel pour toutes les républiques. Et à partir des chutes de l'Union soviétique, la situation s'est changée dramatiquement au début parce que la vie était très criminalisée, très dangereuse. Il y avait une crise immense économique et sociale, et à partir de ça, on a déjà survécu quelques phases différentes des vies post-soviétiques. L'Ukraine aujourd'hui, c'est un pays avec la vie comme à Paris, comme à Berlin, très européen, avec beaucoup de mêmes magasins, même McDonald's, même chaîne de boulangerie Paul, par exemple, et des autres. Oui, à Kiev, près de moi. Et comme ça, la différence, c'est qu'il y a une culture ukrainienne qui est très dynamique, mais pas encore très populaire. Il y a l'esprit national qui est maintenant consolidé par l'agression russe et le conflit avec des séparatistes. Il y a espoir, il y a... un concept de l'avenir, mais plutôt dans les têtes des jeunes, des générations jeunes et moyen âge, pas chez retraités, qui très souvent restent nostalgiquement dans le passé. Mais c'est une société très ouverte, avec beaucoup de gens qui voyagent beaucoup, qui connaissent la vie en France, en Angleterre, au Canada, tout ça.
Mais oui, quand on vous lit vos romans, en tout cas, c'est un bel aperçu, je trouve, de la culture ukrainienne. Ça donne très envie de la découvrir. Et donc, je vous parlais des moments où ils partagent les boissons, le thé, le café, tout ça. Mais il y a aussi la nourriture, parfois, qui donne envie. Les pelmeni, je me souviens, ça a l'air...
C'est un plat russe. Le plat russe universel, en fait, d'origine chinoise.
D'accord.
Oui, et la même chose ukrainienne s'appelle vareniki. C'est plus grande. Oui, mais il y a toujours cuisine culture de la cuisine ukrainienne qui est très importante et très, très aimée, pas seulement en Ukraine. J'ai cuisiné une fois borscht, c'est la soupe de betterave avec des haricots blancs et des autres choses pour les journalistes français à Paris pour 30 personnes. Et c'est, j'ai fait presque 10 litres, tout était mangé dans 30 minutes.
Mais c'est vrai qu'en France, on connaît peu de choses finalement de la culture ukrainienne. Donc c'est assez. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé vous découvrir et découvrir vos romans parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a donné envie de découvrir ce pays aussi, du coup. Et donc pour revenir sur la nourriture, je crois que vous aimez beaucoup cuisiner. C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Est-ce que...
Oui, je cuisine beaucoup. Et mon... J'ai 3 enfants, 2 fils et une fille. Et mon fils Théo aime cuisiner aussi à partir de l'âge de 10 ans. Mais la culture ukrainienne n'est pas très connue en France parce qu'il y a des relations historiques très anciennes entre France et la Russie, et comme ça pour beaucoup de Français, l'Ukraine reste une partie de la Russie, la culture ukrainienne reste une partie de la culture russe, mais c'est pas vrai parce que c'est pas la même langue, c'est pas la même attitude à vie, c'est une autre mentalité aussi.
Mais j'aurais voulu savoir quelles sont vos influences pour écrire, enfin, littéraire ou cinématographique, dans la vie qui vous entoure aussi.
Oui, je suis inspiré. J'étais inspiré au début par la musique classique dépressive et par la peinture, parce que j'adore la peinture, les beaux-arts. J'ai beaucoup d'albums chez moi. Maintenant, nous avons avec ma femme une grande collection de peintures ukrainiennes, des peintres aussi allemands, français un peu. Et j'adorais, par exemple, les peintures de Van Gogh, de Gauguin. Et en fait, j'ai cherché, je me souviens, tous les livres sur le voyage de Paul Gauguin à Tahiti et sa vie là. J'ai lu un roman, je sais pas Somerset Maugham, je ne me souviens pas l'auteur, sur la vie de Paul Gauguin. Mais à part de ça, j'aimais la littérature pas très connue de Russie du début du XXe siècle jusqu'à les années 1930. J'ai lu beaucoup des archives, beaucoup des journaux anciens dans les librairies. Pour découvrir l'atmosphère de la vie aussi pendant la révolution de 1917 et maintenant je lis plutôt la littérature contemporaine ukrainienne et les livres non-fiction sur encore histoire européenne du XXe siècle, XIXe siècle.
Donc vous aimez beaucoup l'histoire, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Ça m'intéresse, mais je n'écris pas les romans historiques. Non. Mais je suis fasciné toujours par les personnages réels, historiques. Et en fait, j'ai utilisé dans quelques romans des personnages réels, historiques, soviétiques. Par exemple, Nikita Khrushchev, qui était un Ukrainien et le chef d'État soviétique, après Staline. Il est devenu un personnage dans mon roman Le Monde du Monsieur Big Four. Le roman n'est pas traduit en français, mais c'est un de mes romans très importants. Il y a des autres personnages réels dans mes romans.
D'accord. Et du coup, une toute dernière question. Quel livre vous lisez en ce moment? De manière générale, quel livre?
Maintenant, avec moi, j'ai un livre de Marie et Mathios. C'est une dame écrivaine très connue, peut-être la plus connue en Ukraine, qui a écrit le meilleur roman de dernières 20 ans, et qui est sorti il y a 2 mois en France par Alimar. C'est le roman Darousse à la douce. C'est une histoire de 3 générations d'une famille qui vivait dans un village sur la frontière avec la Roumanie, à Bukovina. C'est très intéressant. C'est pour moi un des romans les plus fascinants dans la littérature ukrainienne. Avant, j'ai lu un autre roman, le premier roman d'un journaliste ukrainien, Oleg Shenkarenko. C'est une anti-utopie. Un roman anti-utopique sur l'Ukraine 2050. très touchant, très intéressant. Et parmi les écrivains étrangers, j'aime Pierre Lemaitre beaucoup. J'ai lu aussi Françoise Sagan il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'adorais ses romans. J'ai lu Emmanuel Carrère, Paul Auster, Nick Hornby, Gary Steingart de New York, la littérature contemporaine, bien sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé.
De rien.